Alors, on va un petit peu réfléchir sur la mezouza. On va partir d'une question, je ne sais pas si c'est dans ce cours ou c'est le cours d'avant. On va poser la question, est-ce qu'il y avait une mezouza dans le Beth Amikdash?
Oui, le cours d'avant.
C'est vous?
Non.
C'est moi.
C'est toi. C'était toi. Et donc, c'est dans le cours de 13h.
Oui.
Oui.
Alors, j'ai dit a priori non, et puis j'étais et j'ai vu que c'est une grosse histoire. Alors, a priori, il y avait deux mezouzot dans le Beth Amikdash. Une qui était à la bête par Edrine, c'est-à-dire qui était là, c'était en fait une pièce où séjournait le Kohen Gadol 7 jours avant Kippour. Donc comme il séjournait là, donc c'est un endroit de vie. Donc comme c'est un endroit de vie, donc il doit avoir une mezouza. Et pour accéder à cet endroit, on passait par Shar Nicanor. Et donc Shar Nicanor qui était l'entrée principale. Non. C'était dans le Beth Amikdash. Non, c'est Shara Hamim qui est fumé. Non, là, c'était dans le Beth Amikdash, Shara Nicanor, qui n'est pas en rapport avec le général grec, parce qu'il y a un général grec qui s'appelle Nicanor. C'est pas sûr, c'était à quelqu'un qui avait offert les portes. Il y avait deux portes, et ils avaient amené par bateau, et il y avait il a fallu avoir un naufrage et ils ont jeté une première porte et la deuxième porte. Il a dit non, il s'est accroché. Il a dit si vous vous jetez, vous me jetez avec. Et comme il était Moser Nafcho, alors cette porte a été dans le Beth Amikdash. On l'appelle Shar Nicanor. Et à cette porte là, il y avait aussi le mezouza parce qu'elle mène par Edrine. Ça, donc ça veut dire que ce qui mène à va avoir une notion de mezouza. Et alors là. Je vais vous dire quelque chose qui est mignon. C'est que, donc, quand on rentre au Beth Amikdash, il peut avoir une notion de mezouza. Quelle est la mezouza de la prière?
Ah bah, la mezouza de la prière.
Non, pas la prière de la mezouza. La mezouza de la prière.
La mezouza de la prière.
Ça veut dire, j'ai la prière et j'ai... Alors, je vais avoir l'introduction à la mezouza, à la prière. Non, la prière de la mezouza, vous avez raison, c'est les quoi mezouza. Mais la mezouza de la prière, c'est-à-dire j'ai ma tefila, et dans ma tefila, j'ai une mezouza. Et bien la mezouza, c'est Hachem Sefatai Tiftar, Ufi Agite Latera. Hachem Sefatai Tiftar, Hachem, ouvre mes lèvres et ma bouche va raconter ta louange. Tiftar, Pétar, c'est la porte. C'est la porte de la tefila. Cette porte de la tefila, elle a sa mezouza. C'est quoi la mezouza? Le nom de Dieu, Hachem. Le nom d'Hachem, qui s'écrit Aleph, plus loin Dalet, plus loin Nun, et Yud. C'est comme ça qu'il est écrit, Hachem Sefatai Tiftar. C'est pas écrit Yud Kevavke. Vous avez déjà remarqué. Hein, le Hachem Sefatai Tiftar, c'est pas marqué Hachem Yud Kevavke. C'est marqué ce nom-là. Pourquoi ce nom-là? Parce que c'est la mezouza qui permet de rentrer dans le Echal, parce que vous savez qu'au moment où on commence l'Amida, on doit se figurer qu'on est devant le Beth Amikdash, qu'on rentre dans le Echal. Le Echal, c'est donc le comment on parle du Echal? Le Echal, c'est le lieu où il y avait donc ce qui correspondait dans le désert au El Moed, un temps d'assignation, qui est l'endroit qui est fermé. Tout le reste est à ciel ouvert. Mais ça, c'est fermé. C'est là où il y avait l'autel des encens, la menorah, le candélabre, le shulchan, et je passe à un double rideau, Kodesh à Kodashim derrière. Donc c'est le Echal.
Donc comme le 65, comme le Shema Adnout.
Alors, Shema Adnout, ça fait 65. Echal, ça fait 65.
Et
Mezouza, eh ben, ça fait 65.
Ouais.
D'accord.
C'est l'entrée
hein
en matière.
C'est l'entrée en matière. C'est l'histoire de rentrer un peu dans la. C'est... Et donc, finalement, donc, la mezouza de la prière, c'est de demander à Hachem d'avoir sa bouche qui puisse s'ouvrir. Et la clé, c'est le nom d'Hachem. Hachem Adnout, donc de 65. Gematria, mezouza.
Et quand on montait les marches pour aller à l'endroit où il y avait l'hôtel,
oui.
Là, sur cet encadrement-là,
c'est là où il y avait l'hôtel.
C'est là où il y avait
l'hôtel. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.
C'est là, c'est là. Donc on est vraiment là dans avant le service. Donc,
voilà, exactement, exactement, exactement.
Non, la question n'était pas si...
Non. Alors maintenant, ce lieu-là, c'est le lieu par excellence de vie. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de l'impureté de la mort. C'est un lieu où travaillent les Kohanim qui, même en dehors du Beit HaMikdash, n'ont pas le droit de se rendre impurs au contact des morts. Donc si, par exemple, je suis à Jérusalem, il peut y avoir un mort dans Jérusalem, on ne peut pas le laisser passer la nuit, on doit le sortir de là, surtout à l'époque où c'était entouré de murailles. Pourquoi ? Parce que il ne doit pas rester. Donc c'est l'antinomie de la mort, c'est donc le lieu de la vie. Et donc, c'est pour ça que quand on dit « ortavta mal mezuzot », le mot « mezuza », « mezuza », « mezuzot » dans le Tanakh, dans toute la Bible, est marqué très exactement 19 fois. Je le répète, dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, le mot « mezuza », « mezuzot », etc. est marqué en tout 19 fois. Il y a combien de brachot dans l'Amida ?
19.
Ah, tiens. C'est comme ça, juste pour rigoler. Je reviendrai après sur. Donc maintenant, l'endroit de la mitzvah de la mezuzah, c'est parce que c'est marqué par exemple, quand on est sorti d'Égypte, on devait badigeonner de sang les mezuzot vers la Mashkof, hein, sur les montants. Alors là-bas, on ne parle pas de la mitzvah de la mezuzah. Bien que c'est lié, puisque ce n'est pas par hasard que la mezouza se trouve sur la mezouza, et quand on est sorti, il a fallu badigeonner sur les montants, justement, du sang. Et donc, mais là-bas, on ne parle pas de la mitzvah. La mitzvah de la mezouza, elle est dans le livre de Devarim, premier paragraphe du schéma, deuxième paragraphe du schéma, même pas sous, pratiquement, avec petite différence comment le mot mezouzot est écrit. Mais en tout cas, mezouzot, ça peut s'écrire al-mezouzot. Et c'est écrit sans vav à la fin. Parce qu'il faut une seule mezouza. On ne met pas deux mezouzot. Ça s'appelle al mezouzot, etc. Mais remarquez que vous avez ici le mot même, vav, zay, tav. Ça fait mavet. Et qu'est-ce qu'ici vous avez zaz. Zaz qui fait bouger la mort. Qui chasse la mort. Qu'est-ce qui chasse la mort? La mezouza. En cela, la mezouza a une puissance de protection. Puisqu'elle chasse la mort. Comment la mezouza a une puissance de chasser la mort et d'être une force de vie par excellence. Qui on connaît dans le Tanakh, dans la Bible, dont on dit en toutes lettres, il n'est pas mort.
C'est Yaakov.
C'est marqué avec Marat Ta'anit. Yaakov l'omet, Ta'anit, page 5. Yaakov l'omet, c'est pas marqué, mais Yamot Yaakov. Et Yaakov, on dit Mazaru Bachaim, Afu Bachaim, sa descendance est vivante, donc lui aussi, il est vivant. Et donc si Yaakov l'omet, et que d'un autre côté, on dit la mezouza, elle fait Zazmavet. Donc il faut maintenant la connexion entre la mezouza et Yaakov. Ben, la connexion, elle est facile et évidente, puisque Yaakov, ça fait 182, 7 fois 26, 7 fois le nom de Dieu. Et dans une mezouza, il y a 7 fois le nom de Dieu. Évidemment.
Dis-moi toutes ces correspondances. Moi, j'ai une question un peu débile, mais le jazz, ça vient de Zaz, qui fait
jazz.
Bouger.
Jazz. Pas mal. Hein. Ah, à explorer. Maintenant, je reprends le nom de Yaakov. Donc 7 fois 26, 7 fois le nom de Dieu dans la mezouza. Il y a de la matière, mais le nom de Yaakov est composé de Yud, Aïn, Kouf, Bet. Je commence avec la fin, Bet. Bet, c'est Baït. Donc c'est normal que c'est lié avec la maison. C'est normal lié avec la maison, d'autant plus que Yaakov est marié avec la seule femme dont on nous dit qu'elle est Akeret Abaït. L'essentiel de la maison. On ne dit pas ça de Sarah qui est Akeret Abayit ou de Rivka, c'est évident, mais de Rachel, on dit Akeret Abayit. Donc Yaakov est marié avec Rachel Akeret Abayit, et l'un des aspects, en fait, qu'est-ce qu'on craint quand il y a le problème de mezouza, on dit que c'est une protection par rapport à la mort, protection. Parce que ça nous permet, la mezouza, de nous souvenir d'Hachem, nous souvenir de la sortie d'Égypte, nous souvenir des mitzvot, et donc de nous empêcher de fauter. Parce que la faute, elle est à la porte. Le principe. La péta hatat rovets. À la porte, la faute, elle est tapis. La péta hatat rovets. Rachetez votre initiale, Rachel. La péta hatat rovets. Donc, celle qui est la protection. Qui est la protection de l'homme? C'est la maison. C'est qui la maison? C'est la femme. Et la femme, Rachel. Hein? Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui va être pour Yaakov? Donc, il y a le Bayit. Mais Bayit, c'est donc c'est la maison. Mais Bayit, c'est deux. Parce que dans la Mezouza, il y a deux parachiotes. Évidemment. Maintenant, il y a deux parachiotes dans la Mezouza. Mais la Mezouza, elle est toute petite. Et dans sa petitesse, parce que c'est la mitzvah, elle va avoir plus d'importance qu'une maison pleine de sfarim. On connaît les fameuses histoires avec Korach. Est-ce qu'une maison qui est pleine de sfarim est chayav de mezouza? Et la réponse est oui. C'est-à-dire cette petite mezouza, avec son humilité, elle a à sa grandeur. Donc l'humilité, c'est le yud. Le yud de Yaakov. Yaakov qui est yud aikev. Donc c'est la notion d'humilité. Mais le yud, donc il a le petit tête de l'alphabet, ça va dire que c'est 10. Le Rambam dénombre 10 conditions pour une mezouza. C'est-à-dire pour qu'une mezouza ait une obligation de mezouza, il liste 10 choses, que c'est arba à l'arba, que ça fait 1m92 sur 1m92, que ça soit couvert, qu'il y ait une porte, que ça soit un endroit habitable, que ça soit un endroit de vie, et pas une synagogue qui n'est pas un endroit de vie. Il cite, c'est connu, c'est les 10 naïm, les 10 conditions qui sont nécessaires pour une mezouza. Alors, quand une de ces conditions n'est pas remplie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tour de la mezouza. Dans la plupart des cas, dans ce genre de cas, on obligera à mettre quand même une mezouza sans bracha. Par exemple, vous avez un double salon, mais il n'y a pas de porte. Mais il y a les montants, il y a le mashkof, le fronton, et il y a les montants, et bien on met une mezouza, mais sans bracha. J'ai un Porsche qui mène dans une cour ou dans un jardin. Alors le Porsche, il est fermé, mais ça, etc. Je dois mettre une mezouza. Et sans bracha, parce que derrière, c'est... Alors, à moins que le Porsche soit grand. Donc, dans ce cas-là, il est couvert, etc. Mais si derrière, c'est découvert... Alors maintenant, il y a un autre problème. Est-ce que le Porsche, c'est l'introduction à la maison? Dans ce cas-là, on doit mettre... Alors, c'est une autre histoire, ça, encore. Non, mais c'est l'introduction à la maison. La maison, on doit mettre une mezouza. Donc là aussi, on doit mettre une mezouza avec bracha. Même si c'est découvert. Mais si c'est l'entrée du jardin et que j'utilise comme jardin, alors donc c'est l'entrée du jardin, donc ce sera ça. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais...
Si on a un safek, on met la mezouza là où, avec la bracha, là où on a besoin. Oui. Et après, ben,
éventuellement, oui. Si j'en mets plusieurs, ben, ça c'est le top. Mais si j'ai qu'une seule mezouza à mettre, alors je mettrai sans bracha. C'est le cas qui peut se poser, par exemple, dans un Beit HaKnesset. Beit HaKnesset, normalement, on ne met pas de mezouza, parce que ce n'est pas un lieu de vie. Toutefois, s'il y a une habitation aussi un appartement de fonction, du shamash, etc., alors là, on devra mettre des mezouzotes, parce que c'est aussi un lieu de vie. Mais dans ce cas-là, pour le Beit HaKnesset, on mettra des mezouzotes sans bracha. Alors, si on met aussi dans le lieu de vie où habite le shamash, on le fera avec bracha et on mettra les autres en même temps. Mais des fois, on ne les met pas tout le temps en même temps.
C'est quoi qu'on appelle un lieu de vie?
Quoi?
C'est quoi qu'on appelle un lieu de vie?
Un lieu de vie, c'est un lieu où on mange, on dort, ou même pas forcément, où on passe une cave, ouais. C'est un lieu de vie. Un garage, c'est un lieu de vie.
D'accord.
Mais une synagogue, c'est pas un lieu de vie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé ni de parler... La synagogue, ni on doit parler. Alors, un Beit HaMidrash, il y a un Beit Safek. Un Beit HaMidrash, on mettra avec son bracha. Voilà un petit peu. À Djerba, par exemple, il n'y a pas de mezouzot au synagogue.
C'est une cave, par exemple. Il n'y a pas de mezouzot.
Si. Pourquoi pas? Pourquoi? À partir du moment où c'est un lieu propre, si c'est un lieu sale, c'est soit un lieu comme des toilettes, Rusmina Kavod, ou c'est un lieu où on se déshabille comme une salle de bain, quand une douche. Mais attention, une salle d'eau où il y a juste des éviers, mais on ne se déshabille pas, il n'y a pas de douche, par exemple cuisine ou quoi que ce soit, on doit mettre une mezouza, avec bracha.
Mais une salle de bain où il y a la baignoire.
Non, là, il n'y a pas de mezouza. Boursaki, ça c'est moins connu, mais un endroit où on tanne, on tanne le cuir, ça sent très mauvais, etc. Et y a des trucs, là, on ne met pas de mezouza non plus. Mais un endroit, un cellier, où je mets la mezouza. Pas de raison de ne pas mettre. S'il a la...
Ah, il vous l'a fait à
92. À 92. Donc on a 10 conditions. Donc c'est le yud de Yaakov. Il y a le bet de Yaakov, Vaït. Et qu'est-ce qu'il y en a au milieu? Kouf Aïn. Kouf Aïn.
170.
Le nombre de mots qu'il y a dans la mezouza.
Ah, c'est fort ça.
Hein? C'est le milieu de Yaakov. Donc le milieu de...
Ça arrive pas souvent, mais là on a trouvé un truc.
Alors maintenant, et tout ça c'est grâce à quoi? Parce que Yaakov c'est l'homme de l'humilité, avec son Yud. Et c'est pour ça que ça chasse les mauvais esprits. Les mauvais esprits c'est Shindalet. La chinette, c'est les mauvais esprits. Donc comment on les chasse? Grâce à la mezouza, au shindalet, on rajoute le yud. Ça fait le shem shaddai. Et c'est pour ça qu'on doit le voir. Alors, sur cette question, je crois qu'on avait, expliqué que c'est souhaitable de mettre la mezouza dans un boîtier transparent pour voir le shindalet yud. C'est bien, ouais. Sauf si c'est par exemple une chambre à coucher. Alors une chambre à coucher, c'est un lieu où on peut se déshabiller, mais c'est pas une salle de bain. Donc évidemment sur une chambre à coucher, on met une mezouza, mais là dans ce cas-là, pour la chambre à coucher, c'est mieux que la mezouza soit dans un étui qui est opaque.
Mais quand il n'est pas transparent, on voit quand même le shindayud, puisque il est dessus, il est sur le
boîtier. Non, alors sur le boîtier, c'est pas la même chose. C'est pas écrit sur la mezouza. Mais tu vois pas celui qui est écrit sur la mezouza. Et eh bien, c'est pas toujours, sur tous les boîtiers, qu'il y a un shindalet yud. C'est pas toujours. Des fois, t'as des boîtiers. Alors, des fois, t'as des boîtiers avec une fenêtre. Non, pas forcément.
Mais non.
J'ai pas vu. Montre-moi un boîtier où il n'y a pas de shindalet.
Ah, c'est. Bon, on verra. Des trucs israéliens.
Oui, c'est un peu
transparent.
Non, c'est stylisé. Non, non.
Avec un shin, c'est tout.
Ou un shin, des fois.
Ah oui, bien sûr, par Merila.
Ou des fois, il y a une petite fenêtre transparente.
Bien sûr, bien sûr. Non, je croyais que tu me parles du Chine. Oui, bien sûr.
Alors maintenant, ça va aller très loin, cette histoire. Parce qu'on a dit, il y a combien de noms de Dieu dans la mezouza? Il y en a 7. Or,
tu as dit, il y a 7 fois le nom de Dieu.
Oui, Hachem.
Tu as dit combien de fois le... Oui, d'accord.
Yud Kevav Keh. Maintenant, il y a une Gemara dans... on a le temps de dire. Il y a une Gemara dans Sanhedrin Daf Ayin Alef. Gemara très. Que vous connaissez. Mais quand on la réanalyse comme ça, ça nous permet d'apprécier la puissance d'une mezouza. Je fais une petite introduction. Est-ce que tout ce qui est marqué dans la Torah est important? Bien évidemment.
À part.
Donc, il est clair qu'il n'y a rien d'écrit dans la Torah qui n'a pas un intérêt fondamental, vital, applicable. Et pourtant.
Ah, applicable, pas sûr. Applicable.
J'ai
fait l'enquête là, on sait bien que par exemple pour le fils rebelle, il y a.
Alors, c'est la Gemara. C'est justement Sanhedrin Ayin Alef. C'est justement là. C'est là, Bidiouk. Et justement, à propos de Ir Anidahat, de la ville rejetée, cette ville qui doit être détruite. Et toutes les personnes doivent être passées au fil de l'épée et tout ce qui est à l'intérieur doit brûler. Eh bien, Irani Dachat, la Gemara nous dit, Lohaya Veloïe, elle n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Pardon?
C'est dissuasif.
Alors c'est, non, c'est de roche, mais qu'elle sera. Le but de cette paracha, c'est juste d'étudier. Voilà, tu étudies et tu as un mérite. C'est tout. Ça sert à rien.
Non, parce qu'à partir du moment où, s'il y a un commentaire qui te dit que ça n'a pas existé et ça n'existera jamais, ça fait plus peur.
Donc maintenant. Donc c'est droche. C'est bizarre. La Torah, quoi. Juste, tu peux. Qu'est-ce qui permet à ce passage de la Torah, quelque part, d'être, entre guillemets, annulé? C'est presque. C'est-à-dire, de Roche avec Abelsrar, ça veut dire que si j'enlève ça de la Torah, presque. Bon, j'aurais un truc en moins à étudier, mais c'est presque pas grave.
Non, enfin, c'est pas grave. C'est comme si sur un édifice, tu sais, tu dis, ce truc-là, il sert à rien. Tu l'enlèves et l'édifice bah, entier.
On dit, il sert à rien. Rappelez-vous le premier Rashi de la Torah, Bereshit. La Torah aurait dû commencer à Chodesh Hazé parce que l'essentiel de la Torah, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est du pratique. Alors si c'est pas du tout pratique, c'est presque, ça sert à rien.
Non, mais à contrario, parce que si tu prends le rachis justement, il t'apprend que finalement, alors, si c'est que pour l'application, maintenant, elle a commencé pourtant par Bereshit.
Mais tu vas avoir des intérêts parce que c'est pas de Roche Vekabelsrach, là-bas, c'est parce que c'est pour justifier qu'on peut être sur la terre d'Israël.
D'accord.
Alors maintenant, l'histoire, c'est quoi? Alors on dit, comment l'Oaïa, bon, c'est jamais arrivé, la Gemara a dit c'est jamais arrivé,
je veux dire. Ça n'arrivera jamais.
Dire, comment tu peux être aussi sûr à 100% que ça ne pourrait jamais arriver? Un dit que de Rabbi Eliezer, parce qu'on va comme Rabbi Eliezer. Que dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dit Kol sheyeshba filu mezuzah ahat einana asit irani dahat. Toute ville où il y a au moins ne serait-ce qu'une seule mezuza
dans la ville, maison.
Une maison dans toute la ville, il y a une seule mezuza, ça sauve toute la ville. C'est la puissance de la mezuza. Alors, et Rashi dit, Kalvachomer, s'il y a des livres de Torah. C'est-à-dire, alors attention, parce qu'à l'époque de Rashi, et à l'époque d'Agmara encore plus, ça n'existe pas les livres, c'est que des manuscrits. Hein. Et donc, il dit, Kalvachomer, ça veut dire que le minimum qu'il puisse avoir dans une ville, c'est une mezuza.
Il n'y en avait pas l'autre, alors.
Quoi?
L'autre, il n'en avait pas.
C'est pas si c'est Irani Dahat. C'est une histoire, je sais pas. Mais l'autre ne devait pas voir. Il avait pas. Et puis, si les Avot, ils faisaient les mitzvot, l'autre, ils faisaient pas forcément, certainement pas. Maintenant, et c'est pas un dire digne d'Irani Dahat, parce qu'Irani Dahat, c'est Avodah Zara. Or, à Sodome et Gomorre, c'était pas un problème d'Avodah Zara, c'est un problème dévoyé. Donc, c'est une autre histoire. Donc, c'est pas un digne d'Irani Dahat. Donc, on dit en fait, pourquoi? Il peut pas avoir de si elle est mezouza, il peut pas avoir de Irani Dahat. On dit parce qu'il y a marqué que toutes les personnes vont passer au fil de l'épée et v'et kol shela tikbots et tout son butin, tu vas le rassembler au milieu de la ville, v'sarafta ba'esh et tu le brûleras par le feu. Or, s'il y a une mezouza, il y a marqué lo ta'asun ken Hashem Elokechem dans Devarim chapitre 12 verset 3. On nous dit là-bas, juste avant, verset 2, que quand on sera en Israël, on devra détruire la Avodah Zarah, etc. Et juste parce que après, l'autre Asun Kedashem le Kerem. Mais faites pas la même chose pour Dieu, c'est-à-dire que quand il y a le nom de Dieu, on n'a pas le droit de le détruire. On met la Gnisa. Donc je n'ai pas le droit de détruire le nom de Dieu. Comme je n'ai pas le droit de détruire le nom de Dieu, donc je ne peux pas brûler la Mezouza. Or, comme il y a marqué Et Kol, il faut brûler tout ce qu'il y a dans la maison, dans la ville. Donc c'est tout. Donc il ne va plus avoir tout, puisqu'il va avoir une mezouza en moins. Donc comme il n'y a plus tout, donc il n'y a plus d'Irani Dahat. Et il ne pourra jamais. Ça veut dire que Rabbi Eliezer est confiant que ça n'existera jamais une ville en Israël où il n'y a pas au moins une mezouza. Et attention, puisqu'il s'agit de problème du nom de Dieu. Même la mezouza peut être psoula. Même si c'est une photocopie.
Même si c'est une mezouza psoula.
Même si c'est psoula, il y a quand même le nom de Dieu. Il y a 7 noms de Dieu, mais il suffirait d'un seul nom de Dieu pour que ça sauve tout le monde. C'est la puissance d'une mezouza. Une mezouza. Alors maintenant, le Tratraïm me pose la question, il dit, comment tu peux dire que parce que il y a marqué le Tarasunken, tu ne feras pas la Shem Lokechem, mais assez de Khilotarasé. On n'a pas le droit de mettre du chatnez. Mais les habits du Kohen, ils avaient du chatnez. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire le mitzvah. Donc, assez, il dochait l'autre assez. Donc, on pourrait dire que le assez de tu vas brûler tout ce qu'il y a dans la ville, ça va être doché, l'emporte sur l'autre assez. Il dit, et ça, Youn. Il dit, j'ai pas
de.
C'est
le choix qui lui réplique ça?
Non, ça c'est le Torah Trahim, c'est un acharon. Le Maharam Shik, sur cette question, il dit la chose suivante. Dans l'interdiction d'effacer le nom de Dieu, c'est pas seulement un lota asé de lota asunkel, il y a aussi un asé, et Hashem lokechatira. Tu craindras l'éternel ton Dieu. De là, on apprend qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain, et à plus forte raison qu'on ne doit pas le détruire. Et là, donc, c'est asé et lota asé. Donc, comme l'interdiction d'effacer le nom de Dieu, c'est à la fois un lota asé et un asé, et d'un autre côté, j'ai un asé de brûler, Donc, le assez, il ne peut pas pousser assez le tarassé. Il peut repousser un lota assez, mais pas assez le tarassé. Maintenant, le Aruch Lener, le Rav Ettlinger, lui dit, non, parce que la mezouza, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est Shelal Shamaim. Ça fait partie du butin de Dieu. C'est pas aux hommes. Donc, donc ça ne fait pas partie de la mitzvah de la brûler. Tu dois brûler ce qui est dans la ville. Et ça ne fait pas partie du butin de la ville. Alors, tiens, enlève là. Non, je ne peux pas l'enlever parce que ça fait partie de la ville. Donc ça bloque. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas la brûler. Alors, il y a dans les deux dernières minutes, quelque chose qui va très loin. Parce que dans le Rambam, il va dire, il y a 7 noms différents de Dieu qu'on ne peut pas effacer.
Oui,
on l'avait fait la dernière fois. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 7 noms de Dieu. Et d'un autre côté, le Rambam dit une mezouza sans tagim, elle est kshera. Mais, marqué dans Sfarim, une mezouza sans tagim, c'est comme si tu avais des gardiens sans armes. Pourquoi ? Parce que les tagim, c'est des zaïnes. Les zaïnes qui disent zaïn, c'est une arme. Donc, tagim, c'est les couronnes. Les couronnes qu'il y a sur les lettres. Et les couronnes sont en forme de zaïn. Alors, regardez comme c'est phénoménal, parce qu'il y a 7 lettres qui ont les tagim. Chet Nesgat. Et que c'est quoi le tag ? C'est zaïn. Et zaïn, c'est 7. Alors, mais maintenant, regardez l'histoire. C'est que le zaïn, sur les 7 lettres spéciales, il y a 3 zaïn. 3 zaïn, 3 fois 7, 21. C'est le nombre de fois que le nom de Dieu est dans les tefillin. Hop, on est parti sur les tefillin maintenant. Donc d'un côté, on a le nombre de Dieu dans la mezouza. D'autre côté, le nombre de Dieu dans les tefillin.
Qui est baïd.
Qui est plébaïd. C'est-à-dire, là, c'est la maison de l'homme, alors que la maison de la femme, c'est la maison. C'est la mezouza est la mezouza à la femme, ce que les tefillin sont à l'homme. C'est pour ça que dans les deux cas, on a une correspondance.
Il faut mettre une mezouza sur sa femme ou...
Non, pas sur sa femme. Non. Mais la mezouza va être le symbole de l'équilibre dans le couple. Chez Ashkenazim, avant un mariage, on fait les tnoïm. Et dans les tnoïm, on dit lo yivrechu ze mise ve le zu mizu. Zu mise ve ze mizu. Ils ne doivent pas se faire du mal à elle contre lui et de lui contre elle. Ze mizu. Ou zou misé. Mais ça fait mezouza. C'est l'heure.
C'est un bijou ce cours.